Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
Bienvenue dans la bulle immobilière.
Jusqu'à 16h.
La bulle, ça se perce pas facilement.
Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9.
La bulle, c'est fragile, la bulle.
C'est la bulle immobilière.
Jean-François Morin
et ses invités.
Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier.
Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
Ladies and gentlemen, let's go.
Bienvenue à notre 12e saison de la bulle immobilière à CGMD 96.9. Vous étiez à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle immobilière. Salut Michael, je suis vraiment content que tu sois avec moi encore aujourd'hui pour co-animer la bulle immobilière. Tu nous partages des partenaires d'affaires, des invités de marque. Je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, on reçoit un partenaire d'Alex Blouin. Puis tu sais, Alex Blouin, il a sa carte chouchou à Bulle immobilière. Il est venu à plusieurs reprises. Je trouve ça vraiment le fun parce que moi, quand j'avais entendu Yvan Fournier, le nom de notre invité, j'avais l'impression que c'était un monsieur un peu plus âgé. Puis là, tu sais, finalement, je suis vraiment content parce que quand je l'ai vu la première fois, j'étais quand même pas là, OK. Puis après ça, quand il s'est mis à parler, je dis OK, eux autres, là, ils doivent parler vite en tabarouette, lui puis Alex Blouin, dans leur dossier, là, parce qu'il faut être vraiment concentré. Toi, tu l'as connu de quelle façon?
Je pense que ça fait quand même 4-5 ans qu'on se connaît. Je saurais même pas dire comment on s'est rencontrés en tant que tel. Je sais que on est dans un groupe d'affaires ensemble depuis quelques années. Là, fait que je présume qu'on s'était rencontrés via Alex Blouin dans le temps ou quoi que ce soit. Écoute, aujourd'hui, fiscalité, c'est un gros sujet. C'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures. Il y a beaucoup de catégories qu'on pourrait traiter, etc. Donc, on va parler entre autres d'autocotisation, de contre-lettre, des avantages de faire affaire avec un fiscaliste ou plutôt on pourrait dire de pourquoi c'est nécessaire de le faire là, plutôt que de parler juste des avantages parce que je pense que c'est primordial là, dans les transactions immobilières. Donc, comme tu l'as dit, Yvan Fournier qui est associé et fiscaliste chez Barricade. Comment ça va, Yvan?
Ça va très bien. Un plaisir, messieurs, de partager ces moments-là avec vous aujourd'hui.
Ça va être vraiment le fun. Puis pour vrai, là, tout le monde, soyez attentifs. La bonne nouvelle, c'est que ça va être disponible en podcast et que vous allez pouvoir réécouter les segments parce que ça va être vraiment important. Il va y avoir du contenu, du gold nugget que je dis tout le temps. Puis assurément qu'on va aller chercher ce contenu-là. Yvan, t'es un gars du Southside, t'es un gars d'ici. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours, puis tu sais, t'es natif de où, puis la fiscalité, pour quelle raison est arrivée dans ta carrière?
Oui, certainement, effectivement. Un gars de la Rive-Sud, born and raised. Je suis dans Bellechasse, natif d'une petite place là, qui s'appelle Saint-Héré. Je suis maintenant à Sainte-Claire depuis 2015. Je me suis bâti là, j'ai commencé ma carrière là, professionnelle là, chez Blanchette Vachon, donc dans un cabinet comptable. J'ai fait un trois ans et demi là, très intéressant, très pertinent, très très formateur aussi. Puis ensuite de tout ça, ben là, au terme de tout ça, j'ai embarqué à mon compte là, avec les gars chez Barricade, continué le développement là, de la croissance de l'entreprise, tout ça. Sinon, mon parcours scolaire, assez typique, assez standard. J'ai fait un bac en finance, j'ai fait une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. C'est là que j'ai rencontré aussi mes partenaires, Alex, Jean-René, PO. Donc, c'est des collègues de maîtrise avec qui on a eu beaucoup de fun à l'époque. Puis à partir de là aussi, là, suivant dans le monde professionnel, ben effectivement, un jour on s'est regroupé. On a encore aujourd'hui beaucoup de plaisir. On a beaucoup de clients. Tout le temps le souci du client dans le meilleur intérêt, justement au niveau de la fiscalité. Puis là, c'est sûr, on est en train de grossir ça, d'essayer justement d'aider le plus possible de monde. On travaille beaucoup dans la petite PME. On a des clients de toutes sortes. Mais oui, c'est sûr qu'on est beaucoup axé, un, sur l'immobilier, de deux aussi sur tout ce qui est PME, comme je disais en général. Fait qu'on a beaucoup de défis devant nous autres, mais on a beaucoup aussi de belles opportunités, de beaux projets devant nous autres aussi. Fait que ça va super bien, puis on est bien contents de ça.
Quand même très cool. Puis je vais avoir besoin de savoir, ça fait combien de temps que Barricade existe? Parce que les gars, vous êtes genre super allumés. Vous avez un cabinet quand même, un bon cabinet de fiscalité. Puis au-delà de ça, c'est que vous êtes quand même super jeune. Fait que ça date depuis quand, ça, Barricade?
Ouais, exact. Moi, je suis le plus vieux des requins de la gang, entre guillemets. Là. Mais non, c'est ça. Ça a commencé, dans le fond, Alex, qu'on a parlé en introduction. Alex, lui, a commencé tout de suite en sortant de la maîtrise. Puis chapeau à lui, il a commencé tout de suite à son compte. Fait que ça s'appelait au début, là, il a fait un genre de partenariat avec un mentor qu'on avait à l'époque, là, qu'on a tous eu, là, les gars, qui s'appelle Louis Morin. Fait que c'est parti Morin, Blouin et Associés. Puis là, au fil de, après deux, trois années, je dirais, là, 2015-2016, là, c'est un petit peu, on voulait être plus proactif, on voulait être plus tendance un petit peu, puis de se dissocier de cette formulation-là, un peu de style un peu avocat, là, tu sais, Morin, Blouin, ou encore, tu sais, Potvin, Thériault, Jolicoeur, tu sais, toutes ces désignations-là. On voulait avoir quelque chose de vraiment plus commun, rassembleur. Fait qu'un nom, aussi qui pointe pas un individu. Ce qu'on veut bâtir, c'est vraiment une synergie d'entreprise, une synergie d'équipe, de dire, ben, on travaille pour telle entreprise et non pas pour telle personne, tel nom de famille. Fait que c'est là qu'est apparu Barricade, à peu près grosso modo début 2016. Puis depuis ce temps-là, là, on est bien content, puis on essaie justement de promouvoir cette marque-là, cette culture-là, de faire un peu un genre de trademark. Puis,
fait que ça marche bien, là. Vous avez vraiment un beau trademark, une belle image de marque, puis tu sais, vous le faites quelque chose de vraiment bien avec ça. Puis la fiscalité, t'en as parlé pour les petites PME, t'en as parlé pour les entrepreneurs, on a parlé d'autocotisation aussi d'entrée de jeu. Écoute, c'est un milieu où ce qu'on peut se perdre assez rapidement dans la fiscalité. Les normes changent à toutes les années, voire régulièrement pendant l'année aussi, là, parce que tu sais, le gouvernement est instigateur de plusieurs changements, puis que vous êtes pogné toujours avec ces nouveaux changements-là, de faire les lectures complètes, puis après ça, il faut avoir la compréhension, parce que quand que la motion de loi change, les clients vous appellent, mais vous devez déjà être un spécialiste de la motion qui a été changée. De quelle façon que vous réussissez à vous tenir à jour puis d'être vraiment on point sur l'ensemble de la réglementation?
Oui, très bonne question. Effectivement, comme tu le disais, Jeff, c'est sûr qu'effectivement, il y a le budget annuel qui amène son lot de changements dans les mesures fiscales. Donc, année après année, là, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral là, amène des nouveautés dans son budget. Il y a aussi, comme tu disais, des mises à jour économiques là, qui peuvent arriver à des moments X, Y, Z. Là. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des périodes plus propices pour ça, mais ça peut arriver à tout moment. Fait que oui, effectivement, qu'il faut se mettre à jour. Il faut continuer d'être à jour. T'sais. C'est une formation continue de tous les instants. Puis en fait, comment on se met à jour? Ben, c'est sûr que la force du nombre, un, fait la chose. On est rendu une équipe de 15 ou 16 fiscalistes. Là. Tu m'excuseras, j'en perds exactement le compte exact. Là, mais c'est ça. Fait que la force du nombre fait en sorte qu'il y ait des synergies qui se créent. Puis tu ne veux pas avec 16 paires de yeux, ben, c'est sûr qu'on va passer beaucoup plus de choses que le fiscaliste chez eux tout seul. Ça veut pas dire que le fiscaliste chez eux tout seul n'est pas bon. Ça veut juste dire que, en fait, c'est qu'au nombre qu'on est, on est informé, on est dans des groupes justement de fiscalité à la PFF, entre autres, là, l'Association de planification fiscale financière. On est dans au niveau du Canadian Tax Foundation. Donc, tous ces colloques-là, ces formations-là, ces congrès, on suit ça de près. On suit les nouveautés. Puis comme tu dis, il y a des projets de loi aussi qui prennent beaucoup de temps qui sont des fois sanctionnés. Puis après ça, d'avoir une mesure fiscale efficiente, efficace, des fois, ça prend beaucoup de temps. T'sais, exemple comme ça, concret, puis je ne veux pas qu'on s'étire beaucoup, là, mais le projet de loi C-208, qu'on appelle dans le jargon, qui est au niveau des transferts familiales, bien ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que la fiscalité a été revue d'une façon complète pour essayer de favoriser les transferts d'un parent à l'enfant. Donc souvent c'est intergénérationnel. Ça a été décrié dans le monde entre autres de l'agriculture là, pendant ça fait plus de 30 ans qu'on parle de ça. Là. Puis que ça a toujours été, jusqu'à tout récemment, plus avantageux de vendre à un inconnu, à un tiers, que de vendre à son enfant, à cause de la fiscalité. Donc là, puis tu sais, ce projet de loi, juste pour continuer sur cet exemple-là, le projet de loi a été annoncé, sanctionné le 29 juin 2021. Puis là, on vient de recevoir, là, quelque part, novembre 2023, on vient de recevoir un peu les dernières modifications du texte de loi qui nous amène à un projet qui est concret, qui est utilisable, qui est possible de, comment dire, de planifier des choses avec nos clients pour justement aller maximiser une planification fiscale de transfert d'entreprise. Fait que c'est un exemple concret qui, justement, démontre qu'on a beaucoup de moments entre la mise en place puis la finalité. Il y a quand même un gros laps de temps, puis ça demande justement une mise à jour continue de ça, puis entre autres, après ça, de l'appliquer sur une autre réalité aussi.
Puis tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime de la fiscalité aussi, c'est que vous prévoyez le futur. Tu sais, un comptable va vraiment toujours faire un peu le constat du passé, mais vous êtes vraiment dans la planification future, puis c'est des game changers. Écoute, là, on a pris du temps ensemble d'aller dîner pour faire la pré-entrevue, jaser, etc. Mais tu sais, juste cette rencontre-là, les discussions qu'on a eues sur différents sujets, sur des questions qu'on avait, fait en sorte qu'on vient allumer sur un certain élément que quelqu'un nous a sûrement déjà parlé à un moment donné, sauf que notre maturité et notre réflexion n'étaient pas rendues à ce niveau-là. Tandis qu'en date de la rencontre, moi, j'étais comme « wow, ça, c'est comme une information, c'est un no-brainer, c'est sûr qu'on va faire telle chose. » Pourquoi majoritairement les gens vont vous rencontrer puis vont rencontrer un fiscaliste? Parce que, tu sais, oui, on parle de PME, oui, on parle d'immobilier, mais, tu sais, vous arrivez dans la planification, mais à quel moment que les gens devraient vous prendre?
Bien, effectivement, il y a plusieurs moments, tu sais, que ce soit les stratégies de rémunération, stratégie d'achat, stratégie de vente, tu sais, pourquoi le fiscaliste a son rôle crucial dans la chose? Bien, en fait, une bonne planification fiscale va permettre des économies d'impôts, tu sais, grosso modo. C'est un petit peu ça qu'on travaille. Donc, on travaille, comme tu dis, en amont, on travaille beaucoup en planification, en report d'impôts. Donc, concept de finance pure et dure, là, tu sais, à savoir que si je paye une pièce dans 20 ans, ben, tu sais, une pièce d'impôt dans 20 ans, ben, c'est sûr que c'est plus payant que de payer une pièce d'impôt aujourd'hui. Donc, tout ce qui est justement stratégie vente, je vends un immeuble, je vends une entreprise, ben, comment que je peux éviter ou comment que je peux reporter, pas nécessairement éviter, mais comment que je peux reporter, comment que je peux planifier mes choses en conséquence pour justement aller chercher le maximum de mes liquidités, de mon prix de vente. Après ça, ben, tout ce qui est avantages fiscaux, je vends une entreprise, ben, OK, si je vends les actifs, il y a telle conséquence. Si je vends les actions, il y a telle conséquence. Il y a des avantages fiscaux. Quand on parle d'actions admissibles de petites entreprises, ben, tu sais, c'est grosso modo, on peut aller exonérer plus ou moins 1 million là, de profit sur la vente d'actions d'une entreprise qui est utilisée activement au Canada. Il y a certaines règles, naturellement, il y a des critères à rencontrer, certaines règles justement bien précises là, qu'il faut s'assurer de respecter. C'est dans ce contexte-là qu'on peut justement chercher vraiment. Oui, c'est sûr qu'on travaille avec un certain taux horaire, mais par contre, c'est sûr que dans un dossier, il y a tout le temps quelque chose à faire. Tout le temps quelque chose à faire, une planification à mettre en place, que ce soit au niveau justement d'une pré-achat ou que ce soit au niveau d'une pré-vente. Donc, qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut planifier pour aller chercher le maximum de la situation? Puis ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle. On est beaucoup, nous, d'un cabinet indépendant, on est beaucoup en optimisation, en planification fiscale. Fait que justement, on va travailler avec le client, des fois, qui n'a pas de comptable, qui n'a pas naturellement de fiscaliste, des fois pas de conseiller juridique. On va travailler en synergie avec ces personnes-là. On va référer notre réseau, on va créer des collaborations, on va mettre en place des choses concrètes pour justement aller chercher le meilleur de la situation dans le contexte donné. Donc, c'est tout le temps du cas par cas, c'est tout le temps des cas d'espèce. Donc, il faut vraiment travailler la fiscalité de X, Y, Z d'individus, X, Y, Z d'entreprises, que ce soit des compagnies, des sociétés de personnes, des sociétés en commandite. On va tout jumeler ça pour aller chercher justement le maximum, comme je disais.
Ben exact. Quand tu parles de société puis de véhicules de détention, c'est un petit peu ça que je me dis aussi, c'est important d'aller vous consulter. C'est dès qu'on a un projet, soit une acquisition ou un projet, quoi que ce soit de neuf, c'est important de vous consulter dès le départ, ne serait-ce que pour choisir le bon véhicule de détention pour le projet selon la situation de la personne. Je pense que c'est souvent aussi une des choses que vous faites demander beaucoup, comment je dois est-ce que je dois m'incorporer, est-ce que je dois faire une société en commandite, etc. Donc, tu sais, en partant, vous arrivez vraiment à tôt dans le processus d'un projet, là.
Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est ça, comme tu dis. Puis, tu sais, mettons un exemple concret de ça, c'est justement au niveau d'un achat immobilier. Est-ce que j'ai la présence de partenaire ou non? C'est quoi mon type de projet? C'est-tu un flip? C'est-tu un achat, une détention long terme? C'est-tu justement de la location court terme? C'est quoi mon projet? C'est quoi mon risque aussi? Fait que là, on va jongler l'aspect juridique avec ça. Fait que, tu sais, nous, c'est sûr que oui, notre spécialité, notre expertise, c'est de la fiscalité, mais la fiscalité est beaucoup reliée aussi au monde juridique, au monde comptable, au monde du financement dans le domaine immobilier. Puis à partir de là, ben, toutes les conséquences, la TPS, TVQ, après ça, là, est-ce que j'ai une copropriété indivise? Est-ce que, comme tu disais, Michael, est-ce que j'ai un projet que je vais faire via une société? Est-ce que je le fais via une société en nom collectif, une société en commandite? Donc, tout ça va influencer. Puis tous ces véhicules-là, en fait, c'est toutes des stratégies potentielles. Puis en fonction du projet, mais je peux m'en aller vers justement une société en commandite parce que j'ai un groupe de médecins qui est investisseur passif. Eux autres veulent avoir une certaine sécurité, mais ils veulent avoir aussi une entité transparente. Donc, je m'en vais vers la société en commandite. J'ai deux autres propriétaires qui sont en partenariat 50-50, mais peut-être que la copropriété indivise est la solution idéale pour eux autres. J'ai trois personnes qui font du partenariat, mais peut-être qu'une société par action, parce que c'est toutes des entrepreneurs, peut-être que c'est le meilleur scénario. Mais tu sais aussi, comme tu disais, Michael, de regarder chaque situation, puis de prendre vraiment le cas précis en avant de nous, c'est très important, parce que quelqu'un qui est salarié au gouvernement, chez Desjardins ou autre, tu sais, des institutions plus conventionnelles, mais tu sais, si lui est salarié, c'est peut-être que d'avoir une société, ça lui donnera rien. T'sais. Si je peux travailler avec de l'argent corporatif, ben là, c'est intéressant. Si j'ai déjà de l'argent, de l'épargne, une capacité d'épargne qui découle de mon salaire, ben j'ai déjà eu une retenue d'impôt, c'est déjà de l'argent après impôt.
Tu ne vas pas injecter ça dans une structure.
Exactement.
C'est que tu vas être réimposant à la sortant éventuellement.
Exactement. T'sais, des fois, il n'y a pas d'avantage à faire ça exactement. Fait qu'on va vraiment travailler ça, la fiscalité autour de tout ça. Puis effectivement que oui, ça va influencer. Ça va influencer notre acquisition. Ça peut influencer aussi la suite du partenariat avec différents partenaires. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs impacts, plusieurs choses à regarder dans ces situations-là.
Ça te donne-tu genre la prémisse de comment que ça va se passer le restant de l'émission?
Il y a du sujet à parler, ça c'est clair.
C'est sûr, puis il faut rester attentif. Surtout que la bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h. Vous avez manqué notre émission, puis surtout celle-ci. Écoutez-la en podcast, reculez-le, réécoutez les segments parce que ça va être du contenu incroyable à aller chercher. Restez avec nous, on va revenir tout de suite après la pause.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc.
Et $100 de cartes cadeaux chez Club Chaussures.
You're now listening. 96.9.
Talk Rock Hip Hop, l'alternative radio.
Stay tuned right after this.
Chérie.
Hein?
Chérie.
Quoi?
Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une patte de lièvre au-dessus du foyer de la maison,
hein?
Elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'agent.
OK.
Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres,
OK, ouais.
On va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça?
C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me semble que je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non?
De retour à la bulle immobilière.
De retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de Gestion Faleschini. Merci. Pour vos besoins en gestion et location immobilière, c'est simple. On te contacte directement. À quel numéro?
Absolument. 418-658-0404. Page Facebook, LinkedIn, site web. On est disponible partout.
Puis, écoute, Mike, tu es aussi administrateur avec moi au réseau immobilier. On a eu le gros événement du colloque. Écoute, pour moi, on aurait pu avoir 500 personnes. On a même fait la blague dans le chat à un moment donné qu'il y avait du resell d'étiquettes. C'est comment qu'on dit ça? La revente de billets. Ouais. Puis, écoute, pour vrai, là, pour moi, on aurait pu avoir 300, 400 personnes. Puis tout
je
le
pense
monde...
qu'on vise 500 l'an prochain.
Oui, ça va être gros. Ouais. Puis, justement, si jamais vous voulez participer, par exemple, au colloque, participer à des conférences, des déjeuners-conférences, c'est super simple. Allez voir l'agenda sur le réseau immobilier, réseauimmobilier.org. Aujourd'hui, on est avec Yvan Fournier, fiscaliste copropriétaire associé chez Barricade. Yvan, écoute, on parlait un peu de fiscalité, on a mis la table sur qu'est-ce que c'est, mais la réalité, là, de quelle façon tu l'appliques vraiment en immobilier. Souvent, tu dois voir des entrepreneurs en construction qui vont vouloir construire puis faire de la détention sur leurs immeubles parce qu'ils vont profiter de l'argent corporatif pour la réinjecter dans leur parc immobilier qu'ils vont vouloir se construire. Fait que, tu sais, ça s'applique de quelle façon beaucoup plus en immobilier?
Oui, exact. En fait, un des éléments cruciaux d'une bonne stratégie d'achat, c'est de travailler avec la réalité de la personne là, en face de nous. Donc, exemple, le promoteur, le propriétaire là, qui a en vue un projet X, Y, Z. Ben, comment comment qu'on applique ou comment qu'on va planifier la stratégie d'achat. Donc ça, c'est très, très, très important. Puis c'est sûr que, comme on disait tantôt dans le premier segment, chaque cas est un cas d'espèce. Donc c'est sûr que le salarié qui se présente devant moi, qui travaille chez Desjardins, ben on ne va pas appliquer la même stratégie que l'entrepreneur en construction. Parce que la réalité, c'est de dire, si j'ai de l'argent corporatif avec lequel travailler, ben c'est plus souvent plus, en fait, c'est pratiquement tout le temps plus avantageux de travailler avec l'argent corporatif. Je donne un exemple concret. J'ai mon entrepreneur en construction qui a réalisé au cours des dernières années un certain profit. Disons, prenons pour les fins d'exemple, il y a un 100 000 de profit accumulé. Ben, dans une stratégie d'achat, est-ce que je vais travailler avec un véhicule corporatif ou je vais travailler avec un véhicule au niveau personnel? Ben, prenons l'exemple. Faisons le calcul. Si, exemple, j'ai 100 000 de profit que je décaisse au niveau personnel sous forme de salaire, donc un boni par exemple, ou sous forme d'un dividende, ben, grosso modo, ce 100 000-là, je vais appliquer un taux d'imposition personnel. Je vais avoir à peu près, après impôt, rough, un plus ou moins 60 000 à investir. Parce que la tranche d'impôt personnel, ben, le gouvernement combiné, fédéral-Québec, va m'avoir ramassé 40 000 d'impôts sur le 100 000 en question. Donc, dans cet exemple-là, mon investisseur, mon promoteur, se retrouve avec une mise de fonds de 60 000. On connaît l'importance de la mise de fonds, mais c'est encore plus vrai. Deuxième exemple, j'ai le même entrepreneur en construction que le même 100 000, pas plus, pas moins, 100 000 de profit. Ben, j'ai l'option de créer une société de gestion si ce n'est pas déjà en place par ailleurs. Je peux remonter ce 100 000-là au niveau de la société de gestion via un dividende intercompagnie. Ce dividende-là intercompagnie est libre d'impôt avec une déduction dans la loi de l'impôt. Donc, il peut remonter 100 000 libres d'impôt, comme je disais, dans la compagnie de gestion. Puis soudainement, ben j'ai 100 000 pour investir et non pas 60 comme dans mon exemple numéro 1. Pourquoi je le remonte dans une société de gestion? Ben, c'est pour au niveau de la protection d'actifs. Si je le laisse dans la compagnie de construction, je pourrais effectivement me faire la même mise de fonds avec ce 100 000-là. Par contre, c'est sûr qu'en ayant des activités continues au niveau de la construction, donc j'ai un risque juridique au niveau de poursuite éventuelle ou autre. Donc, d'où le but de le monter dans la société de gestion, de créer une protection d'actifs au passage, puis ensuite de réinvestir ce 100 000-là dans un projet X, Y, Z. Donc, soudainement, j'ai une mise de fonds au niveau personnel dans mon exemple numéro 1 de 60 000. Dans mon exemple numéro 2, j'ai une mise de fonds de 100 000. Donc, la game de financement, la game de la mise de fonds devient extrêmement importante, comme vous le savez, dans les projets immobiliers. Donc, c'est sûr que si je peux maximiser cette mise de fonds-là, c'est sûr que je suis gagnant. Ça devient du rendement composé, ça devient du revenu de deuxième génération, ce qu'on pourrait dire. Donc, dans le fond, le 40 000 supplémentaire va me permettre d'acheter des portes supplémentaires. Puis après ça, c'est l'effet boule de neige. C'est l'impact de l'effet de levier peut réduire.
Puis avant de sortir quoi que ce soit de la compagnie, tu peux faire fructifier pendant 30 ans, si tu veux, dans la compagnie. Là, fait que ton impôt, il est reporté, etc.
Exactement. Stratégie de report d'impôt, comme on dit en introduction, c'est du report d'impôt. C'est 90% de nos planifications, c'est ça. T'sais.
L'important, c'est de l'en payer toujours le moins possible. Par contre, tu sais, il y a deux fatalités dans la vie. Là, l'impôt, ça fait partie de ça, puis la mort. Là, on a comme vraiment pas le choix de passer à travers de ça. Mais je pose la question, puis j'ai pas mal mes sources de réponses aussi, mais je le pose. Il y a plusieurs entrepreneurs qui vont acheter des immeubles, puis leur parc, puis justement, ils vont prendre leur argent corporatif, puis ils vont acheter leur parc dans leur gestion, puis ils vont transférer des fonds d'une société à une autre. Mais il y a plusieurs investisseurs aussi qui achètent au personnel, qui, eux, auront pas de compagnie de gestion, vont vraiment acheter un... Tu sais, ils ont commencé par un triplex, puis après ça, ils l'ont vendu, puis ils ont généré du cash, puis ils ont acheté un quadruplex. Puis là, tu sais, finalement, ils sont rendus dans des 8, dans des 12 logements. Finalement, ils ont 70 logements à leur nom personnel. Pour quelles raisons des gens vont s'attarder vraiment à vouloir rester au perso?
Ben en fait, il y a plusieurs raisons. Une des principales raisons, c'est de dire, ben c'est sûr que si j'ai commencé, j'ai débuté, j'ai grossi un parc au niveau personnel, je suis rendu dans un financement, comme tu disais, Jeff, un financement commercial, ben en fait, la boule de neige est startée. Donc là, souvent, c'est ce qu'on voit en pratique, là, souvent j'ai mon propriétaire qui a accumulé, peu importe le nombre de portes, mais prenons exemple qui a accumulé 40-50 portes. Là, souvent, c'est ses refinancements qui lui procurent la prochaine mise de fonds pour son prochain achat. Donc là, première des choses, premier élément, c'est effectivement de dire, ben écoute, je réutilise le refinancement de mes immeubles que j'ai au personnel. Donc, mon cash est déjà au personnel. Donc, que je rentre ce refinancement-là dans une compagnie, j'ai pas plus, pas moins d'avantages. Tu sais, fait que, à partir de là, est-ce que je vais créer une compagnie pour acquérir un 8 logements? Pas nécessairement. Fait que, premier élément. Deuxième élément, mais aussi, c'est que souvent, on veut regrouper le parc à la même place. Donc, si j'ai déjà 40-50 portes au personnel, ben, ma prochaine acquisition, qui généralement, dans un cadre fiscal, va procurer des pertes fiscales là, dans les premières années, frais de financement, amortissement, que ce soit après ça, au niveau de la rénovation, tout dépendant de notre projet, mais rénovation, entretien, etc. Donc, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que d'un point de vue fiscal, on génère des pertes locatives dans les premières années. Après un certain temps, ben, notre immeuble, d'un point de vue fiscal, se stabilise, commence à générer des revenus locatifs là, positifs, des profits locatifs. Puis, ce que je veux dire là-dedans, c'est que si j'ai déjà 40, une quarantaine de portes, ben, probablement que j'ai des immeubles qui sont rendus à maturité d'un point de vue fiscal. Fait que là, les autres commencent à générer des revenus. Fait que là, c'est sûr que ces revenus-là s'ajoutent à nos autres revenus par ailleurs. Donc, si j'ai un salaire de 100 000, ben c'est, mettons que je fais, je sais pas moi, 20 000 de profit locatif, mais ce 20 000-là va s'ajouter à notre 100 000 de salaire. Donc, on va avoir un revenu net de 120 000. Puis là, tout dépendant si j'ai une famille, si j'ai des réels, j'ai décidé ça. Je vais avoir certaines déductions. Puis là, j'ai un revenu, mettons que j'ai pas de déduction pour les fins de simplification. J'ai un revenu imposable de 120 000. Puis je vais avoir un calcul d'impôt sur ce 120 000-là en question. Donc, d'avoir une nouvelle acquisition. Donc, prenons le même exemple que j'utilisais, un 8 logements. Donc, qui va porter mon total de 40 à 48 logements, ben ce nouveau 8 logements-là va permettre, va probablement générer dans les premières années des pertes locatives. Puis là, soudainement, je peux probablement, je pourrais éponger mon profit locatif de 20 000 à l'encontre des pertes. Là, je pourrais éponger les pertes créées par ma nouvelle acquisition contre ce 20 000-là. Puis ultimement, ce que je veux faire, c'est réduire ce profit-là le plus possible à zéro, pour ramener mon revenu net, mon revenu imposable à 100 000. Donc, c'est comme on disait tantôt, c'est du report d'impôt pour réduire. Ce que je peux faire, entre autres, avec l'amortissement, de réduire mon profit à zéro, ben, je reporte à plus tard. Puis plus tard, ben, c'est peut-être dans 20 ans, c'est peut-être dans 30 ans. C'est, naturellement, la récupération d'amortissement vient quand l'immeuble va être vendu, mais grosso modo, le principe, c'est le même. C'est du report d'impôt à plus tard. Puis une pièce d'impôt que je vais payer dans 20 ans, mais c'est plus payant qu'une pièce d'impôt que je paye demain matin.
Mais tu sais, Yvan, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, exemple au personnel, les refinancements, comme c'est de la dette, c'est pas imposable. Donc, tu sais, l'immobilier, c'est quand même beaucoup une game de... Oui, il y a du cash flow, mais tu fais beaucoup ton argent dans la prise de valeur. Puis après ça, comment tu y as accès, c'est à travers des refinancements. Au personnel, ce que je trouve intéressant, si tu as starté tes immeubles au personnel, c'est que tous les refinancements que tu vas faire, ils vont un peu, entre guillemets, être nets d'impôts dans tes poches que tu peux utiliser cet argent-là pour réinvestir, tu sais, versus une compagnie que tu vas devoir sortir l'argent pour l'avoir au personnel, là, t'sais.
Ben effectivement, c'est un point intéressant au niveau des refinancements. Mais qu'est-ce que c'est un refinancement ou qu'est-ce qu'on fait dans le cadre du refinancement? Mais en fait, dans plusieurs cas, on va refinancer, on va utiliser l'équité qui découle de ce refinancement-là. On va l'utiliser pour acheter d'autres immeubles. C'est sûr que si je l'utilise pour m'acheter un voyage dans le sud, un skidoo, un ci, un ça, ben là, c'est différent. Mais oui, effectivement, tu as raison. Quand on refinance, on vient, entre guillemets, encaisser le produit de la vente à l'avance. T'sais, c'est un peu ça. C'est que un immeuble qui, au final, mettons, je mets un prêt là-dessus, je mets un financement de 25 ans, je fais juste rouler ce prêt-là, j'arrive en 25 ans, mon immeuble est, entre guillemets, libre de dette. Là, j'ai un immeuble qui a une valeur de temps, puis etc. C'est sûr que si on refinance, on vient faire de l'effet de levier. Puis là, c'est sûr que si j'utilise cet argent-là pour, comme je disais, un voyage dans le sud, un ci, un ça, bien, dans le fond, c'est que je fais juste devancer le prix de vente tantôt éventuel que je vais aller chercher sur l'immeuble pour me booster un train de vie ou, ben non, carrément pour aller chercher certaines dépenses ou certaines choses que je pourrais peut-être pas me permettre juste avec mon salaire. Donc, d'avoir cette réalité-là au personnel, des fois, ça provoque effectivement une flexibilité, une liberté supplémentaire dans la vie active. Je peux, tu sais, dans le contexte où je réinvestis pour d'autres immeubles, ben, j'ai pas d'avantage ou de désavantage versus quelqu'un qui est en compagnie. Si je réinvestis mon refinancement, tant aussi longtemps que je le laisse dans la compagnie, ben, j'ai pas d'impôt. Donc, mon refinancement, c'est la même réalité. Mon refinancement va tomber dans la compagnie. J'ai, oui, de la liquidité, mais tant aussi longtemps qu'il reste dans le véhicule corporatif, dans la compagnie en question, j'ai pas d'imposition. La journée que, oui, je le décaisse pour aller m'acheter un skidoo flambant neuf 2024, ben là, c'est sûr que, oui, il y a un décaissement qui se fait, puis il y a une tranche d'imposition personnelle qui se paye. De la même façon que je l'illustrais tantôt, à savoir, ben, si j'ai 100 000 de profit dans ma compagnie de construction, je le décaisse pour m'acheter un immeuble, ben c'est sûr que je vais avoir une tranche d'imposition personnelle. Dans mon exemple, tantôt, on disait, OK, je décaisse 100 000, je paie à peu près, grosso modo, 40 000 d'imposition personnelle, puis il me reste un 60 000 pour investir ou encore pour jouir d'un train de vie supplémentaire. Mais c'est sûr que si on est dans un contexte de réinvestissement, de création de valeur, de grossissement du parc immobilier, ben que je sois en refinancement personnel ou que je sois dans la compagnie, j'aurai pas plus, pas moins d'impact là, au niveau de ce refinancement-là.
Puis tu sais, il y a un point que tu as mentionné au niveau de l'amortissement, puis j'aimerais ça que tu puisses vraiment illustrer pour les nuls, c'est comment ça fonctionne l'amortissement, puis de quelle façon qu'on peut mieux le comprendre, parce que souvent les gens, on va leur poser, ouais, mais tu as un amortissement sur ton bilan, on veut savoir c'est quoi, ben de quelle façon que c'est pris justement en compte là.
Oui, exact. Très bonne question. L'amortissement, en fait, c'est une dépense théorique qu'il y a dans la loi de l'impôt. Ça vise à concilier une espèce de forme de désuétude. Donc, dans le fond, prenons deux, trois exemples. Premier exemple, l'immobilier. J'achète un immeuble, mettons, on va dire 1,2 million. Donc, ce que je dois faire, première étape, je dois départir ou répartir, je dois ventiler mon immeuble, à savoir c'est quoi mon terrain, c'est quoi la valeur marchande de mon terrain, c'est quoi la valeur marchande de...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De mon bâtiment, de ma bâtisse. Donc, mettons dans mon exemple, j'ai 1,2 million un achat. Mettons, pour les fins d'exemple, j'ai un terrain qui vaut 200 000, j'ai une bâtisse qui vaut 1 million. Donc, total 1,2. Ce que je peux amortir, c'est la désuétude, c'est sur le bâtiment seulement. Donc, mettons 1 million, ce qui fait en sorte que la première année, là, il y a des taux d'amortissement qui sont souvent dégressifs. La plupart des taux d'amortissement sont dégressifs. Mais là, ça fait en sorte que je peux amortir dégressivement mon immeuble en question, ma bâtisse en question, en fait. Donc, la première année, ben, j'ai grosso modo, puis là, il existe toutes sortes de règles particulières, de demi-année, de règles pour une année, un exercice financier écourté, mais mettons qu'on fait abstraction de tout ça, je peux amortir 4 % de mon 1 million. Donc, la première année, ça me donne grosso modo 40 000 d'amortissement, 4 %. Donc, la deuxième année, ben, c'est, comme je disais, c'est un solde dégressif. Fait que là, j'ai une fraction non amortie du coût en capital, ce qu'on appelle dans le jargon la FNAC. Donc, la FNAC me permet, à la deuxième année, de dire que okay, j'ai un solde d'ouverture, 960 000, 1 million moins le 40 000 que j'ai pris dans un cas où j'ai droit à mon amortissement maximum. Ben, en fait, je repars, puis je vais prendre, dans le fond, la deuxième année, je vais prendre 4 % de 960 000. Ainsi de suite, ça va descendre. Puis, en fait, c'est ça qui va permettre d'aller chercher un amortissement. Puis ça représente une désuétude, parce que c'est sûr que plus qu'on avance, à un moment donné, le bien est de moins en moins une valeur théorique importante. Puis là, c'est là qu'on peut prendre de moins en moins d'amortissement. Deuxième exemple pour illustrer cette désuétude-là, ben prenons exemple un matériel roulant, un pick-up que j'achète, plus ou moins, mettons, on va dire 70-80 000, ben dans la loi de l'impôt, le matériel roulant, le taux d'amortissement relatif à cette catégorie-là, c'est 30 %. Donc, ça a une certaine réalité aussi de dire que mon matériel roulant, ben généralement, a une durée de vie beaucoup moins longue que mon immeuble à revenu. Donc, ce taux-là dégressif vient un peu illustrer aussi la durée de vie du bien de l'immobilisation en question, du bien amortissable. Puis ça va représenter, c'est comme je disais tantôt, cette désuétude-là. Fait que c'est sûr que la première année, on entend souvent ça à la blague, hein, Jeff? J'achète un pick-up puis je le sors du showroom puis il vient de perdre 20 000. Ben, c'est un peu ça, tu sais. La première année, mon pick-up que j'ai acheté au coût de 80 000, ben, la première année, j'ai un amortissement de 30 % sur le 80 000 en question. Puis là, c'est sûr que j'ai beaucoup plus d'amortissement à l'année 1 qu'à l'année 10, par exemple.
Parfait. Puis demain matin, mon immeuble de 1,2 million que j'ai gardé 2 ans où ce qu'on amortit justement 2 fois 4 %. Fait qu'admettons qu'on dit là qu'on était à 2 fois 40, fait qu'à 925, admettons, de solde, je revends l'immeuble à 1,2. Est-ce que je deviens imposable finalement parce que j'ai comme un gain à cause de l'amortissement?
Ben exactement, oui, il va y avoir des conséquences fiscales. Effectivement que si on, comme on disait, l'amortissement c'est une dépense théorique pour refléter la désuétude. S'il n'y a pas de désuétude, en fait, c'est là qu'on va avoir une réinclusion, donc une récupération des amortissements. Donc, dans ton exemple, disons qu'on mettons plus ou moins 75 000, 40 000 à l'année 1, 35 000, mettons plus ou moins à l'année 2 d'amortissement. Donc là, je me rends compte que au fil de ma détention, au fil de mon exploitation, l'immeuble n'a pas perdu de valeur. Il y en a probablement peut-être même pris. On peut laisser avec un exemple à 1,2 million, mais grosso modo, je n'ai pas perdu de valeur. Donc, ça veut dire que effectivement à la revente, ben, je vais devoir un peu réfléchir puis un peu analyser la situation, à savoir est-ce que mon immeuble a réellement vécu une désuétude. Si oui, il y a eu une désuétude, ben là, je vais regarder, OK, c'est quoi ma désuétude réelle versus ce que j'ai pris comme amortissement théorique. Dans un cas où j'ai augmenté la valeur de mon immeuble, que mon immeuble a pris de la valeur sur le marché X, Y, Z, ben à ce moment-là, je n'ai pas de désuétude. Donc là, c'est là que le gouvernement va dire, OK, je t'ai permis une dépense théorique au cours des années, puis cette désuétude-là n'a pas été rencontrée. Donc là, il va y avoir une récupération d'amortissement, donc qui va créer un revenu. Donc oui, pour le vendeur, le cédant, ben, il va avoir un impact fiscal. La même chose, mettons, continuons avec notre exemple, le particulier qui travaille chez Desjardins, 100 000 de revenus, mais c'est sûr que s'il vend son immeuble 2 ans, 3 ans plus tard, il a pris, mettons, dans notre exemple, 75 000 d'amortissement, ben, il y aura une réinclusion de 75 000 là, parce qu'au final, dans la première année, la deuxième année, il a diminué, en fait, ça serait mieux dit, il a diminué ses revenus imposables. Mais l'année 3, lorsqu'il va revendre, mais là, je vais réinclure cette diminution-là de revenus via la récupération d'amortissement.
Ben, Yvan, je t'écoute parler, puis quand tu vends, tu as la récupération d'amortissement à payer, tu as le gain en capital à payer. On peut-tu dire qu'il faut vendre le moins possible dans une carrière en immobilier?
Oui et non. En fait, c'est souvent de jumeler ces stratégies-là. T'sais. C'est quelqu'un, je pense, dans le processus d'un investisseur, de quelqu'un qui veut bâtir son parc immobilier, je pense que le concept de vente ou l'événement de vendre un immeuble va venir là, par la force des choses. On commence tout un peu, ben, en tout cas, la plupart des investisseurs commencent avec des petits plex, des duplex, des 3, des 4, des 4 logements.
Que tu refinances. Souvent, tu te rends compte que tu as quasiment le même montant, je généralise, là, mais tu as le même montant dans tes poches en refinançant qu'en vendant, puis après avoir payé tout l'impôt. Là, fait que c'est plus dans ça. Dans ce sens-là, je me dis, crime, c'est pas avantageux de vendre, là, tu sais.
Ben, exactement. T'sais, c'est sûr qu'après ça, ben, il y a toute la stratégie. On parlait tantôt de planification fiscale. Ben, il y a tout ça, tu sais, derrière ça. T'sais, je vends un immeuble. OK, j'ai du gain en capital, j'ai de la récupération d'amortissement. Ben, est-ce que j'ai des pertes accumulées par ailleurs? T'sais, parce que souvent, c'est souvent des vases communicants. C'est que si j'ai pris de l'amortissement, ben, peut-être que là, tout dépendant si je suis au personnel, tout dépendant si je suis en compagnie. Mais c'est. Dans certains cas, j'ai peut-être des pertes accumulées. T'sais, on a des propriétaires, des clients, des propriétaires immobiliers qui ont peut-être 1000 portes au personnel, puis ils ont 2, 3, 4 millions de pertes accumulées devant eux autres. Fait que là, à ce moment-là, eux autres, de vendre un immeuble, de vendre un petit plex pour acquérir un 12, un 24, ben, t'sais, des fois, ça embarque dans une stratégie qui est normale. Aussi, souvent, ce qu'on va dire, à nos clients qui sont un peu dans ce processus décisionnel-là, de varier les stratégies. T'sais, c'est sûr que si j'achète juste des immeubles à optimiser, ben j'ai telle réalité. Si je fais juste de la construction neuve, j'ai telle réalité. Donc, de varier les stratégies, des fois, justement, d'aller chercher, si j'ai des pertes accumulées, d'aller chercher peut-être justement un projet de lotissement de terrain qui va me générer du revenu d'entreprise. D'aller chercher tantôt un projet de flip. Ou peut-être tantôt, justement, je sais que je vais vendre un immeuble l'année prochaine, mais tu sais, peut-être je vais jumeler ça avec une construction neuve qui va me permettre, à cause d'une construction neuve, qui va me permettre peut-être un plus gros amortissement parce que avec les coûts actuels, tout ça, ben, on va avoir une FNAC assez haute là, au niveau de mon coût d'acquisition. Ben, de planifier cette stratégie-là, à savoir, OK, ben, l'année de ma vente, est-ce que je peux en parallèle construire un immeuble neuf? De mixer ces stratégies-là fiscales va permettre justement peut-être une meilleure efficacité fiscale. Puis c'est beaucoup ça que nous faisons, de la planification, de l'optimisation, justement aller chercher une meilleure efficacité fiscale overall. Là,
puis tu sais, quand on dit que seulement un sujet peut être compliqué, là, quand on vient jumeler toutes les diverses stratégies, ben tu sais, c'est important d'avoir des gens qui ont les mains sur le volant puis qui contrôlent vraiment bien la stratégie. Question rapide comme ça, est-ce que tu es plus pro REER ou pro gestion là? Tu sais, parce qu'il y en a plusieurs à qui on parle, oh non, moi mes REER sont full esprit, puis tu sais, puis il y en a d'autres qui vont dire non, tu sais, moi les REER, je crois pas à ça là. Fait qu'on se positionne comment là-dedans?
Ben, c'est une très bonne question, très bonne question. C'est sûr que, tu sais, bon, Progestion pour REER, excusez-moi, ça part d'une prémisse que, justement, on a un entrepreneur devant nous, là. Mais dans ce contexte-là, ben, c'est sûr que moi, personnellement, puis là-dessus, on s'entend pas tous, la communauté fiscale, mais c'est sûr que je suis pas nécessairement pro-REER. Tu sais, je suis un petit peu plus pro-gestion, je le dis ouvertement. Parce qu'en fait, pourquoi? La gestion est beaucoup plus flexible, tu sais, dans le sens où j'accumule un patrimoine. Qui est pas à l'abri de l'impôt, mais qui est un patrimoine, une espèce de portefeuille, là, un portefeuille de retraite corporatif, ni plus ni moins.
Pro-gestion, on veut dire on met des actifs dans une compagnie de gestion, puis on les fait fructifier au fil du temps. C'est ce qu'on veut dire par pro-gestion, c'est ça?
Exactement, okay. Exactement. Puis dans le fond, ce portefeuille-là, que ce soit un portefeuille immobilier, que ce soit un portefeuille d'actions boursières, que ce soit des obligations, peu importe l'assurance vie, peu importe le type de placement. Donc ça, c'est un portefeuille corporatif de retraite. Souvent, c'est ça. Tu sais, c'est j'accumule des liquidités.
Un espèce de REER qu'on se fait nous-mêmes avec nos activités corporatives.
Ben, effectivement. Tu sais, peu importe le type d'entreprise, que ce soit le secteur de la construction, que ce soit le courtage immobilier, que ce soit un bureau, un cabinet comptable, ben, tu sais, j'accumule des profits. En tout cas, dans le meilleur des mondes, on accumule des profits au fil des années. On envoie ce surplus-là d'excédent, de liquidité, de profit, on les envoie dans une société de gestion. Puis là, je le réinvestis dans un, comme je disais, un portefeuille immobilier, portefeuille d'assurance vie ou autre, peu importe. Puis là, c'est en vue de, justement, générer un fonds de retraite, en vue de tantôt à 65 ans, 70 ans, 60 ans, ou peut-être pour des libertés 55 à 55 ans, de décaisser tantôt puis d'avoir une retraite satisfaisante, une retraite confortable. Donc, pourquoi qu'on parle pro-gestion, pro-REER? Mais en fait, c'est ça, c'est que le REER, ça suppose que je verse justement un salaire plus élevé au cours de ma vie active d'entrepreneur. Je me verse un salaire, je veux après ça plus élevé, je réinvestis ou je place de l'argent dans mon REER. Puis, versus ben, dans la société de gestion, ben, comme on disait tantôt, je monte des liquidités, des surplus de liquidités, des surplus de profits. Je les monte dans ma société de gestion, puis je les réinvestis. Donc, un, me coûte de l'impôt. Donc, le REER me coûte de l'impôt au décaissement. Par contre, le REER provoque une déduction fiscale qui vient baisser mon revenu imposable en tant que particulier. Donc, dans un certain monde, ça peut revenir équivalent. Mais c'est juste que le REER dénature le placement. Que je mette des actions de croissance, que je mette un portefeuille immobilier là-dedans quand c'est possible, que je mette peu importe le type d'investissement, mais quand je vais le sortir, ça va être 100% imposable. Alors que la société de gestion conserve la nature du placement. Si j'ai des actions de croissance, ben ça va générer du gain en capital. Si j'ai des obligations, ça va générer généralement des intérêts. Donc là, ça conserve sa nature. Le REER est beaucoup moins flexible aussi au niveau des stratégies.
Il est obligé de le décaisser, le REER, je pense, à un certain moment donné, ce qui n'est pas vrai avec une gestion aussi. C'est quand même.
Exactement. À un certain âge, ben, le REER, on doit le transformer dans un FER. Le FER doit être décaissé avec un certain barème, là, un certain seuil minimum chaque année, etc. Fait que, tu sais, il y a effectivement un décaissement, il y a une perte de flexibilité à ce niveau-là qu'on n'a pas dans la société de gestion. La société de gestion, ben, différentes stratégies, des gels successoraux, des stratégies fiscales de gains en capital au décès, on peut inclure une nouvelle génération, on peut faire une foule de choses avec le REER, en plus, comme je disais, de conserver sa nature fiscale, d'autogérer. Je vais me chercher un REER sur une institution financière, mais souvent, après ça, un REER chez Desjardins, ils vont t'offrir, grosso modo, les produits Desjardins. C'est sûr qu'on peut passer, oui, par un courtier, on peut aller chercher différents portefeuilles là, au niveau du REER, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins flexible. C'est vraiment ça, moi, que je prône, c'est la flexibilité dans tout ça. Là. Puis les stratégies fiscales, comme on disait, sont plus nombreuses là, avec la société de gestion.
C'est 100% intéressant. Pour vrai, là, c'est des segments où ce que des fois, tu sais, je me dis, je suis en train de réfléchir à ma prochaine question, puis là, je fais comme, hey, Jeff, non, tu peux pas te poser la question, là, il faut que tu écoutes qu'est-ce qu'il dit, parce que c'est vraiment important. On tient à remercier Air Fortin, commanditaire de notre show. Air Fortin, il est là quand même depuis un bon moment. On tient à vous remercier. Passez une belle journée. Air Fortin, on se voit tout de suite après la pause.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, il va l'acheter.
Sont gratuites au groupedbl.com.
CJMD, le 96.9 à Lévis.
La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
Vous avez des questions pour nos invités, vous avez des invités à nous proposer, encore mieux, vous désirez venir partager votre expertise, votre histoire, contactez-moi directement par courriel à info@jeanfrancoismorin.ca. Je suis toujours avec Michael Faleschini de Faleschini Mercier, gestion immobilière, mais surtout avec Yvan Fournier, fiscaliste copropriétaire associé chez Barricade.
Comment ça, mais surtout, tu ne trouves pas intéressant, Jeff?
Ah, ben écoute, 100% que je te trouve intéressant. Mais surtout, Yvan Fournier, parce que c'est du contenu. La fiscalité, c'est toujours intéressant, puis on a toujours quelque chose. Puis qui, tu sais, oui, c'est le fun de dire je paye de l'impôt parce que tu en as fait de l'argent. Il y a ce contexte-là aussi qui apparaît, mais on peut-tu aussi limiter le drame puis d'enlever le plus possible? Puis c'est pour ça que le groupe de Barricade sont là pour nous donner un coup de main. Puis une des choses qu'on a parlé d'entrée de jeu, puis on a parlé hors d'onde, puis on veut en parler encore plus précisément, c'est l'autocotisation sur les immeubles neufs. Parce que là, il y a toutes sortes d'affaires qui se font. Il y a des erreurs coûteuses que des promoteurs vont faire actuellement. Puis il y a beaucoup de centaines de milliers de dollars qui est laissé sur la table, puis même voir des millions de dollars qui sont laissés sur la table. Fait que j'aimerais ça que tu puisses nous faire le topo un peu de c'est quoi l'autocotisation puis de quelle façon qu'on devrait mieux le faire.
Exact. La TPS-CVQ, première des choses, Jeff, c'est un monde en soi, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui travaille en impôts, en fiscalité, mais il y a encore, c'est niché de travailler en TPS-CVQ. On va quand même, comment dire, faire une bonne tournée de l'autocotisation. L'autocotisation, c'est, grosso modo, c'est une fourniture à soi-même d'un immeuble locatif neuf. C'est quoi cette bibitte-là? Qu'est-ce que ça mange? Bien, en fait, la réalité, c'est la suivante. La loi fiscale, via la loi de taxe, la loi sur la taxe d'assises, vise à remettre un autoconstructeur dans les mêmes souliers qu'un acheteur qui achète un client même. Je donne un exemple pour bien comprendre ça. D'un matin, moi, j'ai ma compagnie de construction. Oublions l'aspect juridique. Là, disons que je construis un 12 logements dans ma compagnie de construction. Bien, mes employés, je suis entrepreneur général, mes employés vont travailler sur mon immeuble pendant la saison morte ou autre. Bien, c'est sûr que si je n'ai pas ce contexte-là d'autocotisation, et mes employés, sur le salaire que je leur paye pour construire l'immeuble, pour travailler sur l'immeuble, ben, j'ai pas de TPS-CVQ. Je fais mes remises salariales, je leur donne leur paye, leur rémunération, mais j'ai pas de TPS-CVQ. Sur les matériaux, les sous-traitants, oui, j'ai une portion de TPS-CVQ. Versus, deuxième exemple, versus mon acheteur qui est un client en main, qui vient me voir, tu viens me voir, Jeff, puis tu me dis, Yvan, tu es entrepreneur général, on se connaît depuis longtemps, j'ai une bonne confiance en toi. J'aimerais ça que tu me bâtisses, j'ai le terrain ou pas, j'aimerais ça que tu me bâtisses un 12 logements. Ben moi, Jeff, quand je vais te facturer, je vais te facturer tout, mes sous-traitants, mon profit de construction, les matériaux, mes employés, je vais tout te facturer avec TPS-CVQ. Donc, si je n'avais pas cette loi-là, un autoconstructeur qui a des employés serait avantagé versus quelqu'un qui achète un client en main, un courtier immobilier, un fiscaliste, un gestionnaire d'immeubles, tu sais, qui n'a pas le manpower pour bâtir lui-même son immeuble. Elle serait désavantagée. Donc, cette loi-là vise à remettre un acheteur dans les mêmes souliers, en fait, un autoconstructeur dans les mêmes souliers qu'un acheteur. Donc, ça, c'est la grosse prémisse. Le litige ou le gros litige présentement qu'on vit depuis plusieurs années, là, mais qu'on vit encore plus dernièrement, c'est au niveau de la JVM. C'est quoi la JVM? Parce que l'autocotisation, c'est une fourniture à soi-même, ça le dit. C'est une vente réputée de moi à moi-même à la plus tardive de deux dates. L'achèvement en grande partie des travaux, ou encore la première location, donc le transfert par bail à un utilisateur qui l'utilise pour ses fins personnelles. Donc, c'est la plus tardive de deux dates. Fait que là, c'est le concept de JVM. Donc, la JVM, c'est quoi dans un monde théorique, dans un monde fiscal? C'est le marché libre qui agit, puis que la négociation de bonne foi entre deux tiers de bonne foi qui négocie, puis disent « OK, parfait, je regarde cet immeuble-là, puis j'arrive avec une valeur marchande de X, Y, Z. » Mais là, dans un contexte d'autocotisation, c'est quoi cette valeur-là? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas vendu, mon immeuble. Dans certains cas, mon immeuble n'est même pas rempli. Je fais une construction neuve, je mets ça, on va viser, mettons exemple, une date cible au 1er juillet, pour des fins d'exemple. Mais ça se peut que le 1er juillet, quand mes premiers locataires rentrent, ça se peut que je sois, exemple, vacant à 25, 30, 40%. Donc, j'ai peut-être 7 locataires sur 12 qui sont rentrés. J'ai des bails qui ne sont pas encore signés. J'ai encore des logements vacants. C'est quoi ma valeur marchande pour un immeuble comme ça qui rentre dans un nouveau marché? Quand j'ai un immeuble qui est stabilisé, un immeuble en exploitation, un immeuble usagé, j'ai un historique pour déterminer. J'ai plus facilement de données de comparables de ci, de ça pour déterminer c'est quoi la valeur marchande. Dans un minimum neuf, où le prix peut bouger, d'une année à l'autre parce que mes locataires peuvent rentrer sortir. Puis dans les premières années aussi, je ne suis pas régi avec justement le tribunal administratif du logement, tout ça. Donc, j'ai certaines règles qui permettent de bouger mes loyers. Mais c'est quoi la valeur marchande de mon immeuble au moment de l'autocassation? C'est un concept qui n'est pas évident. Naturellement, dans ma phase de construction, dans ma phase de financement, je vais aller chercher auprès du banquier la plus haute valeur possible pour maximiser mon financement. D'un point de vue TPS-TVQ, quand je m'auto-cotise sur l'immeuble en question, bien naturellement, je veux aller chercher potentiellement la valeur la plus basse dans une fourchette toujours naturellement défendable, raisonnable. Mais c'est sûr que plus que je vais avoir une valeur haute, bien plus que je vais payer de la TPS-TVQ. Puis dans les années pré-pandémie, on l'a beaucoup vécu d'avoir un coût de construction à tel montant, puis d'avoir un take-out au niveau du financement à tel montant. Souvent, il y a des promoteurs, des propriétaires qui allaient chercher plus que leur mise de fonds. Ils allaient chercher un take-out supérieur à leur mise de fonds. Aujourd'hui, un petit peu moins vrai, avec la réalité économique, l'augmentation des coûts de matériaux, tout ça, donc le contexte actuel économique avec les taux d'intérêt aussi et tout. Un petit peu moins vrai ou un petit peu moins facile d'aller chercher un gros take-out. Puis là, après ça, bien là, naturellement, on va tout regarder un peu nos coûts parce que l'autocotisation, la portion TPS que TBQ que je vais payer sur l'immeuble, bien naturellement, c'est une composante importante de mon coût. T'sais. Fait qu'on veut maximiser tout ça. Donc, c'est ce contexte-là qui n'est pas évident. Puis Revenu Québec sont beaucoup présentement en mode vérification sur la JVM. C'est quelque chose quand même d'assez litigieux, là, à savoir que, comme on disait, tous les contribuables à peu près, là, en tout cas, tous ceux-là qui viennent nous voir veulent tous payer le moins de taxes possible. Aller justement dans une fourchette le plus bas possible, dans une fourchette raisonnable, défendable. Puis de l'autre côté, bien, Revenu Québec, nous autres, naturellement, ils veulent s'assurer que le contribuable a payé sa juste part de TPS-TVQ.
Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est toujours le plus contraignant des deux qui va s'appliquer généralement dans n'importe quel concept. Tu sais, tu as le droit à un 4 étages résidentiel, 3 étages commercial. Ils vont appliquer le 3 étages dans un cas. Tu sais, la municipalité va toujours appliquer ça. Pareil pour le financement. Tu sais, on va avoir une valeur de construction versus une valeur marchande, mais ils vont se bloquer toujours à la plus contraignante des deux. Fait que là, tu sais, au contraire, pour des taxes, ben ils vont vouloir toujours aller chercher le plus haut possible. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, qu'on puisse se baser sur le coût réel de construction versus la juste valeur marchande, tu sais, avec le JVM? Est-ce que l'autocotisation serait inférieure, par exemple, sur le coût de construction versus la juste valeur marchande ou inversement? Tu sais, peux-tu avoir un écart, par exemple, je donne un exemple, tu as un rapport où ton coût de construction sort à 8 millions, mais tu sais, ta juste valeur marchande est à 10 millions. Tu as quand même 2 millions d'écart entre tes deux rapports. Ça fait quand même 300 000 de taxes qui peut être applicable ou non. Là. Fait que tu sais, de quelle façon qu'on est capable de faire la distinction entre les deux?
Ben effectivement, c'est un très bon exemple. Un très bon exemple. Puis comme tu l'as démontré dans ton exemple, ben effectivement, il y a un écart entre ton coût réel et ta juste valeur marchande potentielle. La réalité là-dedans, c'est que la loi ne spécifie pas ou ne vient pas dicter dans son texte de loi, ne vient pas dire ben, tu dois t'autocotiser sur le coût de construction. Elle vient dire, la loi, tu dois t'autocotiser sur la juste valeur marchande. Donc là, il y a un jeu d'interprétation qui est là. Comme un peu toutes les zones grises de la loi fiscale au niveau de l'impôt, ben, c'est la même chose dans TPS-TVQ. Il y a certaines zones grises où il y a certains articles de loi qui sont sujets à interprétation. Puis ça, c'est entre autres le rôle du fiscaliste là, d'aller jouer justement dans les zones permises, dans les zones où c'est possible d'aller chercher des économies ou d'aller chercher le maximum d'une situation donnée. Puis c'est là qu'effectivement, dans un cas comme ça, comme tu disais, le coût réel à 8 millions, JVM potentiel à 10 millions, bien là, on va essayer d'aller justement défendre, comme je disais, la JVM la plus basse possible dans une fourchette, potentiellement, dans notre exemple, entre 8 et 10. Puis naturellement, on va regarder l'ensemble de l'œuvre pour dire, OK, écoutez, c'est quoi les facteurs? Est-ce que j'ai vécu justement des éléments extraordinaires qui ont pas amené de valeur à mon projet? Est-ce que justement mon projet, à l'inverse, peut-être qu'il a été super, super productif, tu sais, que j'ai pas rencontré de. Tu sais, j'étais pas en période d'hiver, j'ai pas rencontré d'imprévus, j'ai pas rencontré
d'augmentation de coûts.
D'augmentation de coûts ou autre, exact, problématique X, Y, Z. Puis là, ensuite de ça aussi, bien, comme on disait tantôt, j'ai une valeur potentielle à 10 millions. Mais tant aussi longtemps que je ne l'ai pas vendu, mon immeuble, je ne sais pas exactement je vais me situer où. Est-ce que je vais me situer tantôt, si dans un cas où je le mets en vente dans 2 ans, 3 ans, est-ce que je vais me situer à 10 millions, à 9,2, à 10,7? Tu sais, je ne le sais pas réellement.
Mais dans tous les cas, c'est un évaluateur agréé finalement qui a le mandat de venir faire un rapport d'évaluation de la valeur marchande. Puis là, lui, il peut jouer aussi à travers ses méthodes d'évaluation, méthodes de comparaison, méthode du coût, méthode du revenu. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être plus se pencher vers justement la méthode du coût, d'autres vers la méthode du revenu, mais peut-être que ça va dépendre justement de la valeur là, dans le contexte de l'évaluation du marché aussi. T'sais.
Très vrai, Michael. En fait, c'est ça, oui, tu as bien raison. L'évaluateur immobilier agréé, indépendant, va effectivement être un joueur ou un acteur des fois très important, surtout en situation de litige. Là, Revenu Québec qui dit quelque chose, nous, on défend quelque chose. Puis après ça, ben là, l'expert, le témoin expert ou l'évaluateur expert agréé externe va déterminer, OK, ben voici, selon des normes objectives de l'industrie ou selon mon code de déontologie, etc., etc., mais voici, je regarde l'ensemble de l'offre puis je détermine une JVM qui est à peu près ça. Donc, effectivement, que oui, ce rapport-là ou cet expert-là, quand on l'a dans notre cours, c'est sûr qu'il peut être très, très, très intéressant, puis il peut être aussi très pertinent là, dans un cas, dans un dossier comme ça. Parce que, comme je disais tantôt, Revenu Québec, présentement, ce qu'on voit, c'est que Revenu Québec s'attaque beaucoup au JVM. Le contribuable, naturellement.
Il challenge ton montant que tu as déclaré, puis bon.
Okay. Effectivement, tout à fait. Il va venir te challenger, ça, c'est sûr et certain.
Puis tu es coupable déjà en partant, là.
Ben, effectivement, ça, c'est une autre réalité. Puis en plus, rajoutons, tu sais, juste pour illustrer un peu le concept ou la complexité dans tout ça, mais tu sais, prenons, tantôt, Jeff, tu parlais d'un immeuble, mixte, rez-de-chaussée commercial, puis après ça, deux ou trois étages par-dessus de résidentiel long terme. Ben là, c'est quoi, tu sais, dans le fond, ma réalité, c'est ma fondation. Je n'ai une partie qui sert pour mon rez-de-chaussée. Je n'ai une partie aussi qui sert pour lever deux étages par-dessus mon rez-de-chaussée commercial. Fait que tout ça, le concept du stationnement, le concept justement de mes coûts. Mon rez-de-chaussée commercial, il y a peut-être un genre de 14 pieds de plafond. Mon étage résidentiel a peut-être un genre de 9 pieds de plafond. Le concept de finition intérieure, c'est pas la même dans le commercial versus le résidentiel. Fait que tout ça, ces concepts-là, j'arrive à la fin du projet. Prenons ton même exemple, Jeff, un plus ou moins 8 millions de coûts réels. Mais c'est quoi ma portion commerciale? Parce qu'au niveau commercial, j'ai pas d'autocotisation. Je suis en TPS TVQ, pur et dur. Je charge à mes locataires, je récupère. Fait que, tu sais, au niveau de mon achat, il n'y a, pas d'ambiguïté. C'est vraiment pour la portion résidentielle. Parce que, Jeff, écoute, tu es dans le monde immobilier. Demain matin, tu vends une maison, monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Tu vends une maison unifamiliale, mais il n'y a pas de taxe dans un contexte de maison usagée. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de TPS TVQ à charger à la vente. Mais même chose, mon immeuble résidentiel, qui est par-dessus mon rez-de-chaussée commercial, mais quand que je vais revendre dans 10 ans mon immeuble en question, ben je vais devoir, au fin de la TPS TVQ, c'est considéré comme un immeuble, c'est considéré en fait comme deux fournitures. J'ai une portion, la portion rez-de-chaussée qui est la portion commerciale, puis j'ai ma portion qui est deux ou trois étages, selon un exemple, deux ou trois étages de résidentiel qui est loué des baux de location 12 mois par année, qui lui est un immeuble résidentiel. Puis sur cette portion-là résidentielle, ben j'ai pas de TPS TVQ à charger, donc La TPS TVQ, c'est un concept au Canada puis au Québec de valeur ajoutée, donc un utilisateur final qui paye la TPS TVQ. Donc, dans notre exemple, c'est là aussi la pertinence de cette loi-là, c'est qu'en fait, au niveau de l'autocotisation, c'est la dernière fois, dans un contexte où l'immeuble reste tout le temps un immeuble exploité avec des baux long terme, ben c'est la dernière fois qu'il va avoir une TPS TVQ appliquée sur cet immeuble-là. Donc, Revenu Québec veut s'assurer que le contribuable paye sa juste part de taxes. C'est tout là l'enjeu du litige.
Puis là arrive aussi l'évaluation de la superficie. Est-ce qu'on y va avec le revenu, justement, ou on y va avec la superficie? Parce que là, tu sais, si on y va avec le revenu, le commercial peut peut-être revenir à 25 %. Mais si on y va sur la superficie, peut-être que le commercial aurait 50 % aussi. Là, parce que là, tu sais, on peut faire jouer de beaucoup.
Dans la jurisprudence, il doit avoir... Ça doit le dire, ça. Si c'est plus en fonction de la superficie ou du revenu qu'on détermine le pourcentage commercial résidentiel.
Mais ça, c'est un autre monde, ça, les gars. Un autre monde à part entière. Mettons, prenons une tour à condo. Mais tu sais, mon coût de construction, pour exemple, un 4,5 qui est situé au 25e étage, il va pas être nécessairement différent de mon coût de construction pour le même 4,5 qui est situé au 3e étage. Naturellement, la valeur marchande, vous comprendrez assez facilement que si je suis au 25e étage, vitré sur un corner, vous comprendrez que la valeur marchande dans un contexte de comparable n'est pas la même que si je suis au 2e étage, puis qu'au 2e, 3e étage dans mon exemple, puis que tu sais, j'ai une vue sur le stationnement. T'sais. Ça ne sera pas pareil. Fait que, dans ce contexte-là, l'autocotisation, c'est une chose. Après ça aussi, il y a tout ce qu'on appelle là, le crédit de taxe ou l'espèce de ristourne, des fois qu'on entend dans le jargon, le remboursement de taxe pour immeuble d'habitation locatif neuf, que une mesure que le gouvernement fédéral a annoncée en septembre dernier là, pour favoriser un peu justement favoriser la construction de logements, là, à l'effet que le gouvernement fédéral, sur des projets d'une certaine envergure, puis là, il y a toutes sortes de règles, là, on n'a pas le temps malheureusement d'embarquer là-dedans, mais en fait, c'est que le gouvernement fédéral a dit, ben je vais aller chercher ou je vais accorder un rabais ou une ristourne de 100 % sur la TPS. On attendait beaucoup avec impatience l'annonce du gouvernement du Québec, Malheureusement, on a été déçus par le Québec. Là. Bon, en fait, c'est que le Québec s'est pas vraiment harmonisé, ou pour ne pas dire carrément, ne s'est pas harmonisé avec le fédéral. Fait que là, on a encore une considération TVQ qui est importante puis qui est à contrôler.
On espère-tu encore que ça se passe? Ou on...
Ça, c'est une très bonne question, Michael. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Là. C'est sûr que le Québec arrête pas de sortir dans, mettons, dans les journaux, dans les annonces. Puis bon, il y a tout l'enjeu politique là, derrière tout ça. Il y a une game de politique qui se joue, mais t'sais, on a besoin de logements, on a besoin de logements abordables, tout ça. Puis là, en fait, une autre réalité, c'est que dans la loi fiscale au niveau de la TPS-CVQ, il y a des seuils pour, au niveau de ce remboursement-là, là, du remboursement pour immeubles d'habitation locatif neuf. Il y a des seuils qui datent de 94. Donc, à 200, en bas de 200 000 la porte par logement, basé sur certains critères, là, entre autres pour la superficie, mais en bas de 200 000 la porte, j'ai le droit à un 36 % de remboursement des TVQ réellement payés. Ou de la valeur, en fait, c'est sur la valeur de mon autocotisation. Passer entre 200 et 225 000, ça descend linéairement. Puis passer 225 000 par porte, ben, je perds complètement ce remboursement-là de 36 %. Donc, c'est vraiment pénalisant parce qu'actuellement, avec le prix des terrains, le prix des matériaux, etc., des sous-traitants, tout ça, bien, ça fait souvent qu'on dépasse dans plusieurs cas, dans plusieurs clients, on dépasse ce 225 000 $-là par porte. Puis là, ben, ultimement, écoute, j'ai une TVQ à absorber de 10 %.
Puis tu sais, en toute franchise, pour être dans le milieu de construction avec des amis, il n'y a pas grand-chose qui se construit à 225 000 $-là, je te le confirme. Mm-hmm. Écoute, Yvan, pour vrai, on aurait eu besoin d'une heure de plus juste pour survoler les autres sujets. On voulait parler de contrelettes, on voulait te parler justement de la gestion des taxes, de comment le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que si les gens veulent connaître ce contenu-là, ils vont pouvoir te contacter directement. Puis de quelle façon qu'ils pourraient te contacter?
Oui, en fait, exact. On est disponible pour les clients. On a le désir d'aider tout le monde. On a le désir de justement travailler avec la PME. Fait très facile pour me rejoindre, barricade.ca. Toutes nos fiches sont là. Vous allez avoir nos adresses courriels, nos numéros de téléphone aussi. Donc, tout est là. Très facile de s'y rendre, très facile de nous rejoindre.
Un grand merci, Yvan, d'avoir été présent. Bon ami à Alex Blouin, qui est, lui, un bon ami de la bulle immobilière. Merci, Michael, d'avoir co-animé encore aujourd'hui et de partager ton réseau avec nous. C'est toujours intéressant. Pour tous nos auditeurs, vous avez du contenu que vous avez manqué. Réécoutez-le en podcast. Pour vrai, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et Balados. Bon samedi, tout le monde.
Talk rock et hip-hop. La recette qu'il aime. Rock and hip-hop.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.